Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Bilan très lourd au Sri Lanka après une vague d'attentats dans des églises et des hôtels de luxe. Près de 160 morts. Dernières informations à notre disposition avec Audrey Tison et éclairage sur la communauté chrétienne sri-lankaise. La messe de Pâques endeuillée avec encore à Paris le traumatisme des fidèles après l'incendie de Notre-Dame. Traumatisme et recueillement partagé par les chrétiens syriaques de Notre-Dame de Fatima à Jounieh au Liban. Reportage de Nicolas Feldman. Et puis à l'instant, le pape se déclare proche de toutes les victimes d'une si cruelle violence. Également au sommaire, le point sur les combats à Tripoli en Libye. Un détour par Kiev et le second tour de la présidentielle ukrainienne. La face cachée du globe s'intéresse ce dimanche, entre autres, à l'amélioration des conditions de travail des journalistes éthiopiens. Le Premier ministre sri-lankais a convoqué une réunion du Conseil de sécurité nationale. Le président a lui chargé une unité spéciale de la police et l'armée d'enquêter pour déterminer qui a commis les attentats. Une série d'attentats dans trois églises en pleine célébration de Pâques ainsi que dans trois hôtels de luxe. Au moins 158 morts et des centaines de blessés. Bilan très provisoire. Bonjour Audrey Tison.
Bonjour.
Très provisoire ce bilan car la situation reste très confuse.
Oui, la police a d'abord parlé de 6 explosions ce matin, puis d'une 7e et à l'instant une 8e explosion dans la banlieue de la capitale Colombo. C'est un kamikaze qui a tué 3 policiers, indiquent les autorités locales. Depuis ce matin, ce sont des images terribles qui nous parviennent au travers des réseaux sociaux. Image tournée devant une grande église à la façade blanche. Des Sri-Lankais en sortent l'air hagard, d'autres crient, des personnes au sol ensanglantées qu'on essaie d'extirper pour les conduire vers des bus qui tentent de se frayer un chemin dans la foule en direction des hôpitaux. Comment expliquer ces explosions? Pas d'explication officielle, pas de revendication. Le Premier ministre a dénoncé des attaques lâches. J'appelle tous les Sri-Lankais à rester unis et forts en ces temps tragiques, dit-il. Le gouvernement qui vient de décréter un couvre-feu, il annonce aussi qu'il bloque les réseaux sociaux pour lutter contre, je cite, les fausses informations. Parmi les rumeurs qui enflent, celle d'une attaque par des islamistes, le mouvement NTJ projetait des attentats suicides contre des églises importantes. C'est ce que la police indiquait il y a une dizaine de jours.
Merci à vous Audrey Tison. 1,2 million de chrétiens vivent au Sri Lanka, dont la population totale est de 21 millions d'habitants. Le pays compte environ 70% de bouddhistes, 12% d'hindouistes, 10% de musulmans et 7% de chrétiens. Élément de contexte avec Delon Madhavan, géographe et chercheur associé au Centre d'études sur l'Inde et l'Asie du Sud à Paris et à Montréal.
C'est un pays où on trouve beaucoup de chrétiens qui ont été, notamment pour les catholiques, évangélisés par les prêtres français dans le nord et les prêtres italiens dans la côte plutôt ouest et sud. Avec des liens très très forts et une très grande ferveur justement religieuse. Et vous avez des grands temples et des églises. Et c'est vrai que l'une des trois églises qui a été touchée, c'est l'une des plus importantes de l'île, l'église d'Antonia à Colombo. Et qui en plus est un symbole aussi parce que c'est vraiment une église qui est partagée à la fois par les pratiquants singhalais et des pratiquants tamouls. Et on est dans un quartier aussi à majorité tamoule et musulman. Donc les lieux qui ont été choisis ne sont pas non plus anodins. Vous avez eu des petites attaques à très petite échelle à l'encontre des catholiques ou des chrétiens en général, mais ça n'a jamais été à une telle échelle. Donc c'est ce qui aussi pose beaucoup d'interrogations. Donc pourquoi les chrétiens maintenant? Le jour n'est pas anodin.
Vous pouvez craindre d'ailleurs que cette date précise soit ciblée par des terroristes.
Je pense qu'honnêtement, personne ne pensait justement à cela parce que les principales victimes étaient plutôt musulmanes ces dernières années.
Des propos recueillis par Augustin Arrivé. En Libye, la guerre est, semble-t-il, partie pour durer. La guerre entre les troupes du maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est du pays, et celle du gouvernement d'Union nationale, dirigé par Fayez al-Sarraj, combat en cours dans les faubourgs sud de Tripoli avec, la nuit dernière, un avion qui a ouvert le feu sur plusieurs secteurs de la capitale libyenne. On fait le point avec vous, Christian Chesneau.
Les troupes du maréchal Haftar sont bloquées dans les faubourgs de Tripoli, mais les bombardements par les airs continuent. L'homme fort de l'est de la Libye dispose d'une aviation qu'il utilise pour reprendre la capitale. Plusieurs survols de chasseurs-bombardiers ont eu lieu pendant la nuit dernière, suivis d'explosions au sol. On évoque aussi la possibilité de drones armés. En tout cas, l'aéroport de Tripoli est désormais fermé. Ce regain de violence coïncide avec l'entretien téléphonique cette semaine entre Donald Trump et le maréchal Haftar. Les deux hommes ont discuté d'une vision commune pour la Libye. Le président américain reconnaissant le rôle significatif du militaire libyen dans la lutte contre le terrorisme et la sécurisation des ressources pétrolières du pays. Autant dire que le maréchal Haftar se sent pousser des ailes avec ce soutien venu de la Maison Blanche qui vient s'ajouter à ceux de l'Égypte, des Émirats Arabes Unis, de l'Arabie Saoudite et celui plus ou moins affiché de la France. En face, le Premier ministre Fayez Sarraj est sous pression. Il peut compter sur l'aide des puissantes milices de Misrata, de la Turquie, du Qatar et de l'Italie. L'intensification des combats inquiète l'émissaire de l'ONU, Hassan Salameh, qui redoute un embrasement généralisé de la Libye, encouragé par les divisions internationales. En tout cas, les combats ces derniers jours ont fait voler en éclats le calendrier politique d'une sortie de crise en Libye.
34 millions d'électeurs ukrainiens invités ce dimanche à voter dans le cadre du second tour de l'élection présidentielle qui oppose le président sortant Petro Porochenko à un comique et homme de télévision Volodymyr Zelensky. Reportage de notre envoyé spécial Nathanaël Charbonnier dans le bureau de vote où s'est rendu ce matin le favori des sondages, Zelensky.
Nous sommes en périphérie de Kiev, dans le bureau de vote de Zelensky, le probable futur président. Conséquence à son arrivée, cela se voit, une femme saint à l'air l'accueille avec le dessin d'un porc sur le ventre en le traitant de marionnette. Puis c'est la cohue avec les dizaines de journalistes venus du monde entier pour le suivre. À 11h15, c'est fait, Zelensky a voté. Et une fois la tempête médiatique passée, retour à la normale et au calme pour les habitants du quartier.
Ça y est, vous avez voté ?
Oui.
Vous avez bien voté ?
Dobre. Za prezidenta proglasoval.
J'ai voté pour le président.
Ah, Porochenko ?
Porochenko.
Et pourquoi lui ?
Через те, що ми з Порошенком будемо йти вперед, а з Зеленським ми будемо йти назад.
Je pense qu'avec Porochenko, on va avancer, alors qu'avec Zelensky, on va revenir en arrière.
Mais évidemment, tous ne sont pas de cet avis et il n'est pas compliqué de comprendre pour qui ce couple a voté. Vu les arguments avancés, le secret de l'isoloir évoqué par madame ne tient pas longtemps.
Et vous avez voté quoi alors ?
Secret, нельзя рассказывать.
Почему секрет? Мы скорее против коррупции.
On est contre corruption, contre les lois qui ne marchent pas, pour le développement du pays.
Zelensky.
Yes.
Oui, Zelensky, tac Zelensky, les Ukrainiens votent jusqu'à 20h.
Le pape François a célébré donc la messe du dimanche de Pâques, suivie de la bénédiction Urbi et Orbi, et a fermement condamné les attentats au Sri Lanka. La communauté chrétienne française est, elle, encore blessée par l'incendie de Notre-Dame de Paris, et des fidèles donc rassemblés et de facto en l'église Saint-Eustache, où Mathieu Mondoloni a recueilli le témoignage de Sylvie.
C'est important pour moi d'être là parce que c'est ma culture, parce qu'il est arrivé ce drame à Notre-Dame, évidemment. Et puis, il y avait tellement de beauté, tellement de spiritualité que je suis particulièrement touchée, comme beaucoup de gens dans le monde, parce que lorsque j'en parle, même avec des étrangers, des Américains, des Britanniques, des gens qui visitent la France, ils sont extrêmement choqués aussi.
Des prières pour Notre-Dame aussi pour les chrétiens d'Orient. Hier au Liban, une veillée pascale était organisée dans l'église Notre-Dame de Fatima à Jounieh, à une vingtaine de kilomètres au nord de Beyrouth. Cette paroisse syriaque catholique a la particularité d'accueillir un certain nombre de réfugiés syriens et irakiens qui ont vu leurs églises ravagées ou détruites par la guerre. C'est un reportage de Nicolas Feldman.
Au pied de l'autel de Notre-Dame de Fatima, une grande icône de la Vierge Marie.
Notre-Dame qui est à Paris, elle est aussi chez nous. Dans tout le monde, il y a la Vierge.
Chez ses paroissiens, les images de la cathédrale de Paris en flammes ont ravivé des souvenirs, comme cet attentat djihadiste en 2010 commis à Bagdad.
Ça m'a rappelé l'attaque lorsque des hommes ont brûlé notre église syriaque en Irak.
Samira Elish, réfugiée au Liban depuis 4 ans.
Ils s'en sont pris à nos familles, les ont tués.
Vu que nous avons déjà perdu nos églises, nous nous sentons concernés et touchés.
Je suis Père Youssef Darghan, le prêtre de cette paroisse. Je suis d'origine syrienne, de Hama. Nos églises, et surtout à Palmyre, qui est bombardée complètement avec la maison du prêtre. Notre monastère de Qaryatayn, qui est daté du 4e siècle, il est bombardé, brûlé. Pour Notre-Dame, c'est très bien. pour la reconstruction de cette église, mais vraiment en Orient, il faut reconstruire, c'est pas seulement les églises, mais les chrétiens, les gens.
Et d'après l'association catholique Œuvre d'Orient, depuis le début du conflit en Syrie, une centaine d'églises ou de bâtiments paroissiaux ont été endommagés.
Il est 12h40, vous écoutez le journal de France Culture et La Face Cachée du Globe. Bonjour Nabil Hamel.
Bonjour Mathieu. Depuis sa prison, le leader séparatiste catalan Oriol Junqueras s'est dit vendredi prêt à appuyer une éventuelle investiture du socialiste Pedro Sanchez après les législatives de dimanche prochain. Il ne faut en aucun cas faciliter l'arrivée d'un gouvernement d'extrême droite en Espagne, explique l'ancien vice-président du gouvernement de Carles Puigdemont et numéro 1 du parti de la gauche républicaine de Catalogne, ERC. Jordi Sanchez, de l'autre grand parti indépendantiste, lui aussi en détention provisoire et jugé à Madrid, a assuré jeudi qu'il n'avait pas de ligne rouge. Nourriture, tentes, 95 tonnes d'aide humanitaire saoudienne et émiratie ont été envoyées par avion en Iran après les inondations qui ont fait 76 morts le mois dernier. Cette initiative a été prise par le roi Salman d'Arabie et le prince héritier au nom, disent-ils, de la fraternité et de la solidarité avec le peuple iranien. Riyad et Téhéran, deux puissances régionales rivales, n'entretiennent plus de relations diplomatiques depuis 2016. L'opposition cubaine apprécie différemment l'application par les États-Unis de l'article 3 de la loi Helms-Burton qui durcit les sanctions contre la Havane et ses partenaires commerciaux. Pour l'opposant radical José Daniel Ferrer, cela va dans le bon sens. Plus sceptique, Manuel Cuesta Morua de la coalition Arco Progressista y voit, je cite, une erreur politique de Donald Trump qui affectera encore plus le peuple cubain qu'il prétend favoriser. Y aura-t-il un procès en Afrique du Sud après l'assassinat de l'opposant et ancien chef des renseignements rwandais Patrick Karegeya? Un juge a renvoyé jeudi le dossier au parquet national sud-africain. Les faits remontent à 2014. L'ancien colonel de l'armée rwandaise avait été tué dans sa chambre d'hôtel à Johannesburg. Aujourd'hui et plus de 5 ans après, on ne sait toujours pas si la justice sud-africaine finira par se saisir de cette affaire, même si, Noé Hochet-Baudin, l'on en sait un peu plus sur l'identité des suspects.
Oui, l'officier chargé de l'enquête a publié une déclaration cette semaine dans laquelle il admet savoir depuis 2014 qui sont les suspects, qu'ils se trouvent au Rwanda, qu'ils sont directement liés avec le régime de Kigali. Il admet aussi son incapacité à les poursuivre à l'époque. On écoute Guérinel, l'un des avocats de la famille Karegeya.
Nous avons lu cette déclaration et nous avons trouvé les justifications très faibles. Les enquêteurs nous ont indiqué que malgré le fait qu'ils savaient qui sont les suspects, comment et quand ils avaient tué Patrick Karegeya, il était très difficile de demander l'extradition.
En 2014, les enquêteurs avaient d'ailleurs fait un rapport de l'affaire devant une commission parlementaire, ce qui fait craindre une interférence politique de la part de Pretoria.
Dans cette affaire, les assassins peuvent revenir sur le territoire sud-africain et il ne leur arrivera rien, car il n'y a pas de mandat d'arrêt. Ils peuvent aller où ils veulent, car nos services de police n'ont pas procédé à l'étape d'après qui était de produire un mandat d'arrêt.
Retour maintenant à la case départ donc. Comme en 2014, c'est au parquet sud-africain de décider s'il y a matière à poursuivre les suspects. Et cela peut prendre du temps. La première fois, il lui avait fallu près de 5 ans pour prendre la décision.
Noé Hochet-Baudin, notre correspondant à Johannesburg. Retour à présent sur le dernier rapport de Reporters sans frontières en matière de liberté de la presse. Si la Somalie et la République centrafricaine sont les pays les plus meurtriers pour les journalistes en Afrique subsaharienne, la bonne surprise est venue de l'Éthiopie, pays qui fait un bond de 40 places dans le classement de RSF, une amélioration liée au changement de régime et à la politique d'ouverture menée par le nouveau Premier ministre Abiy Ahmed. Valérie Crova.
Libération de dizaines de journalistes emprisonnés, fin de l'interdiction de plusieurs centaines de sites internet et de médias. Les mesures en faveur de la liberté de la presse ont été aussi rapides que l'ouverture de l'espace politique éthiopien. Pour la première fois depuis plus de 10 ans, souligne Reporters sans frontières, il n'y a plus de journalistes en prison. Les blogueurs éthiopiens ont également bénéficié de cette ouverture historique. Certains ont passé 1 an et demi en prison. Ils étaient accusés de terrorisme par l'ancien gouvernement qui avait décrété l'état d'urgence pour museler toute voix dissonante, notamment sur les réseaux sociaux. Plus de 200 sites internet et blogs ont ainsi été interdits durant plusieurs années. Quand Abiy Ahmed a prononcé son premier discours devant le Parlement, il a demandé pardon à tous ceux qui avaient été torturés. Parmi eux, il y avait des journalistes qui voient en lui un homme providentiel, capable d'accepter aussi les critiques. Un an après son arrivée au pouvoir, le Premier ministre éthiopien est en train de réformer la loi antiterroriste et celle sur les médias, particulièrement répressive à l'égard de ceux qui exercent le métier de journaliste.
Adieu.
Merci. Merci à vous, Nabila Mel. À dimanche prochain, quelques mots de la météo de l'après-midi. Météo printanière au nord, temps plus incertain au sud. Cette édition a été préparée avec Benjamin Ducy et la technique Bruno Gagnère-Fontanille.